RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis, avec Melchior Gormand.
Le mois de juin rime traditionnellement avec la célébration des sacrements comme la première communion ou celui de la confirmation. Et c'est justement ce sacrement qui donne aux baptisés le don de l'Esprit Saint qui nous intéresse ce matin dans Je pense donc j'agis. Que signifie vraiment la confirmation? Est-ce qu'il y a un bon moment pour la faire? On va en discuter avec nos invités. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. Et vous, est-ce que vous avez fait votre confirmation? À quel âge avez-vous reçu ce sacrement? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Quel sens ça a également dans votre vie, dans votre foi? 04 72 38 20 23 pour participer ou alors par mail à l'adresse direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook. Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et on verra plus particulièrement dans la seconde partie de l'émission à 10h comment on se prépare à recevoir ce sacrement de la confirmation quand on est jeune ou quand on est moins jeune. Bonjour Pauline de Torsiac.
Bonjour Melchior, bonjour à tous. En France, la confirmation est habituellement donnée à partir de l'âge de l'adolescence, c'est-à-dire entre 12 et 18 ans. Certains font le choix de faire leur confirmation avant leur première communion, dès l'âge de raison. Alors on va s'interroger sur le sens de ce sacrement. Comment s'inscrit-il dans le parcours d'initiation chrétienne? Baptême, première communion, confirmation, y a-t-il une hiérarchie? Que dit l'Église sur ce sujet? Bref, vous l'avez compris, y a-t-il un bon moment pour demander le sacrement de confirmation? On en parle tout de suite dans Je pense donc j'agis.
Oui, avec nos trois invités.
Exactement. Je reçois l'abbé François de Dieu. Bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes curé de la paroisse Saint-Urbain-Sainte-Marie-de-la-Garenne-Colombes dans les Hauts-de-Seine. Vous êtes l'auteur du livre « La confirmation à sa juste place », c'est aux éditions Artege, un livre dans lequel vous plaidez justement pour proposer ce sacrement dès l'âge de raison avant la première communion. Qu'est-ce qui vous a poussé à réfléchir à cette question en deux mots?
En fait, cela fait très longtemps que j'y réfléchissais parce que dans la tradition de l'Église, dans tous les enseignements, jusqu'à Vatican II, bien sûr, et même le pape François, les sacrements ont toujours été présentés dans l'ordre baptême, confirmation, eucharistie. Et comment retrouver, découvrir le sens de cet ordre et peut-être le retrouver.
Alors, on va approfondir ça dans un instant. Père Charles-Marie Rigaille, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes curé à Lille, vous êtes aumônier de l'université catholique, donc vous êtes en duplex de Lille et on remercie nos confrères de RCF Nord de France qui assurent ce duplex ce matin. Vous êtes curé, vous êtes aumônier de l'université catholique, une aumônerie qui organise chaque mardi soir la messe à la bougie qui cartonne, je crois. Il y a beaucoup d'étudiants qui participent à cette messe. Ils sont tous confirmés, ces étudiants?
Oh non, loin de là. Il y en a d'ailleurs une bonne partie qui ne sont pas encore tout à fait baptisés. Donc on a chaque année un bon nombre d'étudiants qui se préparent au baptême. Et puis il y en a d'autres qui effectivement, en fréquentant le sacrement de l'Eucharistie, demandent soit à faire leur première communion, soit à être confirmés.
Alors on va justement en parler plus en détail. Une troisième invitée est avec nous, Delphine Schellfoot, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors Delphine, vous êtes mariée depuis bientôt 28 ans, vous êtes maman de 4 enfants, ils ont entre 20 et 26 ans et alors vous avez reçu le sacrement de confirmation il y a 10 ans, vous aviez 42 ans, vos enfants eux sont tous déjà confirmés. Vous allez nous expliquer votre parcours dans un instant, c'est intéressant parce que justement vous avez je crois reçu le baptême assez tôt, vous avez un parcours assez classique et cette confirmation elle arrive un peu tard, c'est ça? Un peu plus tard.
Exactement, exactement. Donc j'ai été baptisée, comme vous l'avez dit, tout bébé, hein, voilà, naturellement. Après j'ai fréquenté différentes écoles, toutes catholiques, et j'ai préparé très consciencieusement, voilà, avec l'appui des parents et des catéchistes, ma première communion. Tout s'est fait en primaire, hein, bien sagement. Je n'ai jamais ensuite quitté la foi. J'étais même dans un collège et lycée tenu par des Ursulines, donc voilà. Voilà, j'allais à la messe le dimanche, j'avais une vie de foi, j'allais dire, classique. J'ai rencontré le Seigneur, j'allais dire personnellement et plus intensément au collège. Et puis au lycée, C'était l'époque où la confirmation était, enfin, elle reste encore proposée au lycée. J'avoue que cette proposition a été peut-être faite, mais je ne l'ai pas du tout entendue. Elle a été faite tellement timidement, je dirais qu'en fait, moi, voilà, je vivais ma vie de foi continuait, tout allait bien pour moi, et je n'ai certainement pas entendu cet appel. Bref, la vie a fait qu'après j'ai continué voilà, mes études supérieures, je me suis mariée, les enfants sont arrivés, qu'on a baptisé bébé, etc. Et puis j'étais très engagée dans la paroisse avec mon mari sur différents services, notamment en préparation au baptême, accueil aux messes, partage de la parole avec les enfants, enfin tout ça, voilà. Mais jamais le sacrement de confirmation, voilà, j'avais jamais reçu ce sacrement.
Et
Et
votre mari,
puis
je crois, vous disait qu'il vous manquait un truc, c'est ça?
voilà, en fait, on a fait des retraites, etc. Enfin bref, dans le cadre notamment des équipes Notre-Dame. Enfin voilà. J'avais rencontré un prêtre qui m'avait dit, ah, vous n'avez pas été. Mon mari le pointait souvent en fait. Il me disait, mais ma femme n'est pas confirmée. Moi j'étais toute gênée. Je me dis, bah enfin bon. Et puis je me souviens d'un prêtre qui m'a dit, mais vous savez qu'il vous manque quelque chose. Vous n'êtes pas confirmée. Et puis, lors d'une célébration en début d'année, vous savez, on vous présente tous les projets de l'année en paroisse, hein. Et puis on parle du parcours confirmation adulte à ce moment-là, voilà, au niveau du doyenné. Mon mari me donne un coup de coude à la messe, et puis je regarde, je me dis, ah, bon, dis, mais enfin, tu vas te décider peut-être,
Vas-y.
bon. Et il se passe encore un petit peu de temps jusqu'au moment où voilà, il y avait cette annonce, et puis après il y avait des petits papiers qui étaient laissés au fond de l'église. Puis j'arrive à une messe, je pense que c'était fin novembre, début de l'Avent, et puis je vois le papier. Et je me dis, mais c'est bizarre, ça m'a frappé. Et je me suis dit, il faut que je le prenne ce papier. Je l'ai discrètement, sans dire à mon mari, j'ai discrètement mis le papier dans ma poche. Et puis je l'ai ressorti, j'ai vu le numéro et je me suis dit, bon allez, t'appelles. Donc j'ai appelé la personne. Bon, j'avais beaucoup d'angoisse parce que je me disais, mais non, mais novembre, enfin fin novembre, le parcours est déjà commencé. Je vais quand même arriver comme un cheveu sur la soupe. Hein. Et puis j'ai appelé la personne et elle m'a dit, non, non, mais vous avez juste loupé la réunion zéro, tout va bien, voilà. Et on est parti sur le parcours avec une rencontre par mois. Là, bon, c'est vrai qu'au moment des présentations, je me suis dit, mais, enfin tout le monde me dit, mais elle a l'air d'être dans un rythme classique, elle n'a jamais décroché de la foi, etc. Et qu'est-ce qu'elle fait? Enfin, qu'est-ce qu'elle fait là? Enfin, pourquoi ça ne s'est pas présenté? Je n'ai pas d'autre explication que le fait que ça m'ait été proposé, mais très, 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 très timidement.
Alors justement, on va
Et
revenir. Ouais.
ouais.
On va revenir un peu sur votre parcours dans un instant, mais on va peut-être rappeler quand même aussi le sens de ce sacrement de la confirmation qui s'inscrit dans le parcours d'initiation chrétienne qui vous a été proposé timidement, et c'est aussi le sujet de l'émission. Père Charles-Marie Rigaille, qu'est-ce qu'il signifie ce sacrement de la confirmation? Le mari de Delphine lui disait, il te manque un petit truc voilà, dans ton parcours. Pourquoi c'est important ce sacrement? Qu'est-ce qu'il signifie clairement?
Alors on pourrait dire effectivement beaucoup de choses. Une chose que moi j'aime bien faire quand on essaye de comprendre un peu la théologie ou ce que ça signifie, c'est de revenir tout simplement à la manière dont on le célèbre. Puisque la façon dont on célèbre dit toujours un peu ce qu'on est appelé à vivre et ce qu'on est en train de faire. Et peut-être qu'il y en a parmi vous, parmi les auditeurs qui vont aller à des confirmations. C'est la période, effectivement. On en a vu à la Pentecôte, il y en a encore un petit peu. Au moment de la confirmation, il y a trois choses, ou en tout cas deux gestes et une parole, qui viennent marquer ce que c'est. Il y a l'imposition des mains de la part de l'évêque et des prêtres qui l'entourent, et puis ou de la main. Il y a une onction d'huile, du Saint-Crème, et puis il y a une parole qui est « Sois marqué de l'Esprit-Saint, le don de Dieu ». Voilà, et c'est effectivement cette parole-là qui dit en quelques mots ce que ça signifie. C'est-à-dire que le sacrement de la confirmation, il est là pour donner un caractère indélébile, d'où le signe de l'huile, hein, qui pénètre, qui entre et qui marque, de la présence de l'Esprit-Saint dans la vie de la personne. Le baptême a donné l'Esprit-Saint, et là on vient parfaire le baptême, comme on dit, on vient conclure tout ce cycle de l'initiation chrétienne qui a commencé avec le baptême, qui se poursuit avec la confirmation, l'Eucharistie, on en parlera tout à l'heure, justement pour l'ordre, et qui vient faire que la personne reçoit la plénitude de ce que le baptême est venu lui donner, la plénitude de la vie du Christ, capable de devenir témoin, de prendre sa place dans l'Église pour devenir témoin.
Donc si je comprends bien, c'est complémentaire. Père François de Dieu, pourtant tous les baptisés ne sont pas confirmés.
C'est une des grandes difficultés d'ailleurs, parce que il y a quelque chose d'incomplet tant qu'on n'est pas confirmé et tant qu'on n'a pas reçu la communion. Nos frères orthodoxes donnent le baptême, la confirmation et l'Eucharistie au même moment, pour bien signifier l'unité des trois sacrements de l'initiation chrétienne. Nous, catholiques, nous avons fait le choix de dissocier les trois pour bien manifester le lien à l'Église à travers l'évêque dans le sacrement de confirmation. Et le sacrement de confirmation qui est en fait pour nous notre véritable Pentecôte. C'est Saint Jean-Paul II qui disait ça un jour quand il confirmait des jeunes à Yamoussoukro. Il disait « Votre confirmation est votre Pentecôte pour la vie ». En fait, l'Esprit-Saint agit au moment de notre baptême, puisqu'il fait de nous des enfants de Dieu. Mais les pères de l'Église nous disent que il est donné dans un deuxième sacrement, juste après. Alors, à l'époque, juste après, dans la même célébration, puisque tout se faisait dans la même célébration jusqu'au VIe siècle environ. Et à ce moment-là, l'Esprit-Saint nous est donné et vient transformer notre vie. Et nous voyons bien que nous insistons souvent avec le pape François sur le fait que nous sommes disciples missionnaires. Et nous pourrions dire en quelque sorte que le baptême fait de nous des disciples du Christ, ou plutôt parce que nous sommes devenus disciples, nous avons reçu le baptême. Et puis il va nous fortifier dans cette vie de disciples. Et le sacrement de confirmation fait de nous des missionnaires. Nous sommes envoyés dans le monde, quel que soit notre âge, pour pouvoir témoigner du Christ, témoigner de l'amour de Dieu, non pas avec nos propres forces, bien sûr, mais avec la force de l'Esprit-Saint. Et en proposant parfois timidement le sacrement de confirmation, eh bien, nous privons les fidèles de ce don, de ce trésor, comme si finalement c'était une option, ou comme si c'était pour les catholiques plus, je sais pas comment dire, mais comme si nous n'en avions pas besoin pour notre vie chrétienne. Et nous voyons bien d'ailleurs que l'exigence évangélique, sans la force de l'Esprit-Saint, sans la grâce de Dieu, eh bien, elle est parfois difficile à atteindre. Sans lui, nous ne pouvons rien faire.
On parle, vous l'entendez ce matin dans Je pense, donc j'agis, du sacrement de la confirmation avec nos invités, bien sûr, avec vos témoignages, vos appels. Dites-nous si vous avez fait votre confirmation, c'était à quel âge que vous l'avez reçu, qu'est-ce que ça vous a apporté, quel sens ça a dans votre vie. 04 72 38 20 23 pour témoigner, ou par mail à l'adresse direct@rcf.fr.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Pauline de Torsiac, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Avec nos trois invités jusqu'à 10h, l'abbé François de Dieu, père Charles-Marie Rigaille et Delphine Schellfoot. Pauline, on continue.
Oui, père François de Dieu, comment expliquer finalement que la confirmation, ça passe en dernier plan, alors que c'est complémentaire du baptême?
Alors, l'histoire explique un petit peu cela, parce que les évêques confirmaient assez tôt autrefois, et même on lit dans certains conciles provinciaux que les gens qui ne présentaient pas leur enfant pour être confirmés avant l'âge de 3 ans étaient condamnés au jeûne, au pain et à l'eau tous les vendredis de l'année jusqu'à la confirmation de leur enfant. Donc on le confirmait assez tôt, petit à petit ça a été repoussé, l'influence protestante qui faisait de la confirmation davantage un engagement a beaucoup marqué, et parfois, nous avons transformé la confirmation en une espèce de sacrement de l'engagement personnel, comme si ce n'était plus Dieu qui confirmait un don reçu au baptême, en le rendant plus fort, en l'affermissant, mais comme si c'était moi qui confirmais. On entend quelquefois, vous savez, des gens qui disent « je me confirme ». Voilà, comme si c'est moi qui confirme ma foi. En fait, non, c'est Dieu qui vient nous confirmer. Et donc, il y a eu cette espèce de basculement qui fait que l'on a repoussé le sacrement de la confirmation. Les évêques français en 1951 dans un très 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 beau document qui invite à repenser la mission à partir des sacrements, invité à bien remettre la confirmation très tôt. Alors très tôt, quel est le bon âge? Ça dépend de notre foi aussi. Hein. C'est pas, il n'y a pas un âge particulier. Bah non, non. Moi, j'insiste beaucoup sur la question de l'ordre, mais l'ordre des sacrements, dire que l'importance d'être confirmé avant de communier, c'est une chose, mais ça ne veut pas dire que c'est à 7 ans automatiquement. Ça peut être à 15 ans, à 20 ans, à 40 ans, peu importe. La question, c'est vraiment toujours de recevoir ces sacrements dans la foi. Et donc au moment où cela a du sens pour nous de pouvoir recevoir ce don. Mais voilà, on a repoussé beaucoup, à tel point qu'on a proposé le sacrement souvent à un âge, on va dire, difficile, autour de l'adolescence, et où, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le reçois? Est-ce que je le reçois pas? Peut-être que je suis en opposition avec mes parents à ce moment-là. Donc voilà, et puis on en a fait aussi un sacrement pour garder les jeunes le plus possible dans nos aumôneries. La peur qu'ils partent, voilà. Au lieu de dire, mais qu'est-ce qu'on leur propose à côté du sacrement de confirmation? Vous voyez, un peu comme si un père voulait faire un cadeau à son enfant, un très beau cadeau, et puis il passe par la maman pour donner le cadeau à son enfant, et la maman rajoute des conditions. Bah, tu le feras plus tard, tu le recevras quand t'auras bien rangé ta chambre, quand tu seras je sais pas quoi. Bon, et parfois, des ministres de l'Église ont gardé le cadeau que Dieu veut faire à un enfant en donnant des conditions supplémentaires. Et c'est parfois un peu dommage.
Vous êtes d'accord avec ça, Père Charles-Marie Rigaille? On repousse aussi cet âge de la confirmation pour les garder dans les aumôneries. Est-ce que c'est un constat que vous faites?
Alors peut-être que à une époque ça a été pensé, ou en tout cas aujourd'hui c'est plutôt la profession de foi qui fait cet effet-là. Moi quand je rencontre des gens qui me disent ah moi j'ai tout fait, sous-entendu tout fait, ça veut dire j'ai fait toutes
j'ai
mes
tout
communions,
coché.
Y compris la communion solennelle, la profession de foi, et en fait ils vont pas tout fait puisqu'ils n'ont pas la confirmation. Et c'est là je rejoins l'abbé François de Dieu, c'est que justement ils pensent qu'ils ont tout fait alors qu'il leur manque quelque chose d'essentiel. Finalement la profession de foi ils auraient pu ne pas la faire, c'est pas très important. Mais la confirmation, oui, elle leur manque. Et donc, on peut pas se servir de la confirmation comme quelque chose qui serait une condition pour pouvoir continuer. Et je crois pas qu'aujourd'hui elle le soit, ou en tout cas elle l'est plus depuis très longtemps. Elle est devenue un peu, effectivement, le sacrement de ceux qui traversent l'adolescence et qui sont encore catholiques et attachés, pratiquants à l'adolescence. Même si, comme le témoignage de Delphine l'a bien montré tout à l'heure, c'est même ça, c'est pas encore tout à fait le cas, puisque elle qui a priori traversé l'adolescence en restant pratiquante, attachée, etc., a réussi à passer à travers. C'est toujours un peu triste de se rendre compte qu'effectivement ce sacrement manque. On sait même que d'ailleurs, par exemple, normalement pour être marié à l'Église, il faudrait être confirmé. Il y a des pays qui le demandent encore, le Portugal, l'Italie, etc. Et nous, en France, on serait bien incapable de le demander. On ne marierait pas un tiers des personnes qu'on marie aujourd'hui si on demandait la confirmation pour le mariage. Et c'est bien dommage parce que justement, le mariage, il est la suite de la confirmation.
Alors justement, Delphine, vous, c'est une fois mariée, une fois que vous avez eu des enfants, que vous êtes revenue sur ce chemin de la confirmation. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Voilà, quel chemin intérieur vous avez fait, justement.
Alors bon, j'avais, comme j'ai expliqué tout à l'heure, hein, mon mari qui me donnait des petits signaux de temps à autre, mais j'allais dire, voyant que tout se passait bien au niveau de notre vie de foi, qu'on était engagé, épanoui. Bon, moi, je n'avais pas l'impression. Enfin, je l'écoutais, mais à moitié, parce que j'avais pas l'impression qu'il me manquait quelque chose. Et puis, c'est vrai qu'au travers de rencontres, de parcours divers, ça résonnait de plus en plus en moi. Je me disais, mais bon, oui, tu as une vie de foi, tu te donnes aux autres, voilà. Mais je savais pas l'exprimer. Je sentais de plus en plus que quelque chose manquait. Je me disais, mais il a l'air d'avoir raison, mais quoi? Et puis, je vous dis, c'est cette histoire de... J'ai entendu cet appel, en fait, tout simplement, en paroisse. Je me suis dit, mais bon, confirmation à l'âge adulte, bah... Seigneur, ça doit certainement être pour moi, puisque je suis rentrée de cette messe et ça m'a travaillé. Au point qu'après, j'ai ressorti ce petit papier, j'ai appelé la personne et j'ai commencé ce parcours. Et durant ce parcours, je me suis vraiment, vraiment, j'ai découvert vraiment qui était l'Esprit Saint. Et je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? En fait, pour moi, après coup, je me dis, mais j'étais sur un tabouret à deux pieds, quoi. Et il me manquait le troisième pied. Et j'ai vraiment, j'ai certainement loupé le coche à un moment ou à un autre. Je l'ai rattrapé tardivement. Mais c'est vraiment la relation à l'Esprit Saint, et puis j'allais dire, ça a eu un effet de boost, hein, sur ma vie de foi. Et sur ce, j'entendais l'un des pères qui nous parlait d'être témoin. Moi, c'est ça qui a vraiment changé, parce que ma vie de foi, elle était réelle, mais elle était beaucoup pour moi. Elle était moi, les services, etc. Mais le témoignage auprès des autres, le vrai témoignage, je pense que je ne l'ai démarré qu'à partir de ma confirmation. Vraiment, le savoir parler du Seigneur et aussi l'invocation de l'Esprit Saint. Moi, l'Esprit Saint, je le considère comme une personne à part entière. Pour moi, la fête de la Trinité, si vous voulez, il y a des personnes qui découvrent l'Esprit Saint et qui disent, mais bon, moi, j'arrive pas à le prier. Moi, je l'invoque régulièrement. Enfin, ça me parle. Alors maintenant, j'aurais fait ma confirmation à 7 ans. Je ne peux pas le dire. Je sais pas ce que ça aurait donné. Mais j'ai conscience d'avoir été privée de quelque chose pendant de nombreuses années. Ça, c'est sûr.
Est-ce que vous auriez eu
une relation particulière avec l'Esprit Saint.
Est-ce que vous auriez eu la même démarche à l'adolescence si on avait insisté pour vous proposer ce sacrement, ou pour vous il y avait peut-être une question de maturité aussi derrière?
Peut-être une question de maturité, parce que effectivement, même si je n'ai jamais décroché de la foi, si j'étais voilà. Bon, il y a toujours les influences des copines qui sont plus l'adolescence c'est troublé. Je ne sais pas si ça avait été plus insistant, j'aurais franchi le pas. Je ne sais pas si j'avais finalement suffisamment conscience de l'importance de ce sacrement, parce que la manière dont il était présenté, c'était normalement c'est à peu près l'âge, on vous propose. Je vous dis, moi, c'était très timide, mais pas vraiment expliquer.
Père François,
pas vraiment expliquer sur tout ce que ça peut apporter. Ouais.
Père François de Dieu, Delphine le dit bien, ce trépied, il manquait le troisième pied. Il y a une unité entre ces trois sacrements, une réaction par rapport à ce que vient de dire Delphine.
Oui, justement, j'aime beaucoup cette expression du trépied auquel il manque un pied. Parce qu'en fait, effectivement, ça repose dans ce cas-là sur nos propres forces quand il manque un pied au trépied. Et puis, il y a une autre chose à laquelle je pensais, c'est que dans le catéchisme de l'Église catholique, la partie sur la morale, donc c'est-à-dire sur notre manière de vivre en chrétien dans le monde, est intitulée « la vie dans l'esprit ». C'est pas simplement la morale comme un terme extérieur, mais la vie dans l'esprit. Comment l'Esprit Saint m'amène à vivre l'Évangile? Et donc là, on voit bien que quand il manque ce pied au trépied, il manque quelque chose. Et je pense à une histoire que j'ai connue il y a très longtemps, un jeune qui était dans ma paroisse, Nicolas, qui avait 33 ans. Et puis il était là à la messe tous les jours. Et en fait, il n'était pas confirmé. Un jour, le clochard de la paroisse a été confirmé. Bon, il montrait à tout le monde la photo de l'évêque avec lui. Là, c'est l'évêque, là, c'est moi. Là, c'est l'évêque, là, c'est moi. Il était très, très fier de sa confirmation. Et ce jeune lui dit, ah ben moi, je suis pas confirmé. Alors là, le Jean-Paul lui dit, mais comment ça, t'es pas confirmé? C'est pas possible, je vois, t'es là tous les jours. Ben non, quand on m'a proposé ce sacrement, j'avais pas trop envie, j'avais mis des distances avec l'Église. Et puis là, je suis revenu, mais j'ai peur de le vivre. Et là, Jean-Paul, avec vraiment le sensus fidei, le sens de la foi, fort de l'Esprit Saint qu'il venait de recevoir dans le sacrement de confirmation, lui dit, mais t'as pas peur d'aller communier? Je le vois, tu le fais. Donc soit tu le fais les deux, soit tu fais aucun. Et c'était très très beau, ça a bousculé évidemment Nicolas, mais c'est vrai que si nous sommes prêts dans notre cœur à recevoir le don que Dieu nous fait de lui-même dans l'Eucharistie, nous sommes prêts à recevoir le don que Dieu nous fait de lui-même dans l'Esprit Saint, dans la confirmation. Et réciproquement, bien sûr. C'est-à-dire que si on vit la confirmation, c'est aussi pour communier. C'est pas pour s'arrêter là. Et voilà, pour la petite histoire, ce jeune a été confirmé l'année suivante. Et Jean-Paul était son parrain, justement son parrain de confirmation, parce que il y a eu ce lien qui a été fait et ça a transformé la vie de Nicolas. Voilà, de pouvoir finalement ne pas s'appuyer simplement sur deux pieds, le baptême et l'Eucharistie, mais sur ces trois pieds, les trois sacrements d'initiation chrétienne qui sont vraiment profondément unis entre eux.
Père Charles-Marie, vous qui êtes au contact des étudiants, comment ça se passe? Est-ce que il y a voilà cette conscience de l'unité de ces trois sacrements? Est-ce que voilà, comment vous en parlez au quotidien avec les étudiants qui sont pas tous confirmés, vous l'avez dit.
En quelques mots avant la pause.
Ouais, eh ben oui, alors,
il y a 30 secondes, c'est ça?
Ouais, moins.
On continuera après, sinon c'est pas grave. Allez-y.
Oui. Bon, il y a deux types d'étudiants. Il y a ceux qui arrivent et qui sont pas baptisés et qu'on prépare au baptême et à la confirmation et qui, dans ces cas-là, reçoivent les sacrements dans l'ordre évoqué, effectivement, par le Père François, c'est-à-dire le baptême, la confirmation et la première communion, le tout à la suite, comme c'est prévu, comme ça s'est fait pendant des siècles, etc. Et ça, c'est toujours le cas pour les adultes, en tout cas, quand ceux qui sont baptisés adultes. En revanche, pour ceux qui ont été baptisés petits, effectivement, en général, ils ont déjà fait leur première communion et c'est là qu'on les prépare à la confirmation.
Et on va continuer d'en parler dans un instant, dont je pense donc j'agis toujours avec nos trois invités et vos appels au 04 72 38 20 23 pour nous parler de la confirmation. Quel sens ça a? À quel âge vous l'avez reçu, ce sacrement? Venez témoigner, nous envoyer des mails à l'adresse direct@rcf.fr ou nous rejoindre dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis. Petite pause, à tout de suite.
Je pense donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Pauline de Torsiac, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
9h30 dans Je pense donc j'agis, on parle de la confirmation ce matin, ce sacrement qui donne aux baptisés le don de l'Esprit Saint, qui nous intéresse avec nos invités. Est-ce que vous avez fait votre confirmation? Si oui, à quel âge avez-vous reçu ce sacrement? Qu'est-ce que cela vous a apporté dans votre vie de chrétien? Quel sens ça a? 04 72 38 20 23 pour venir témoigner à l'antenne avec nous.
Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens. Touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrasse-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur. Ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai
Glorious pour vous accompagner en ce lundi matin. Saint-Esprit, voici mon cœur. Chanson de circonstance ce matin puisqu'on parle du sacrement de la confirmation.
Je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et toujours avec nos trois invités, Pauline, jusqu'à 10h, l'abbé François de Dieu, Père Charles-Marie Rigaille et Delphine Schellfoot.
Père François de Dieu, vous regrettez que l'accent soit davantage mis sur les dispositions du croyant que sur le sacrement comme don gratuit. C'est ce qu'on peut lire dans votre ouvrage, La confirmation à sa juste place. Comment comprendre justement entre une certaine maturité et finalement ce don gratuit de ce sacrement de la confirmation. Comment trouver le bon équilibre?
Alors, ce qui est difficile, c'est que nous pensons forcément à partir de ce que nous avons vécu. Donc ça, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime. Et je pense que l'immense majorité d'entre nous, avec tous les auditeurs, ont été confirmés assez tard. Et quand je dis assez tard, adolescence ou voire plus tard. Et il n'y a pas d'âge hein, pour être confirmé, mais l'immense majorité ont été confirmés après leur première communion. Ça, c'est normal. Et vu l'histoire de notre Église. Et donc, c'est difficile pour nous d'imaginer autre chose, parce que j'ai vécu quelque chose de beau à tel âge, ben je suis tenté de vouloir que les autres vivent la même chose. Dieu merci, quel que soit l'âge auquel nous recevons le sacrement de confirmation, eh bien le Seigneur nous comble de son esprit. Donc de toute façon, quel que soit l'âge, c'est quelque chose de beau. Et ça, il s'agit de nous en réjouir. Mais parfois nous oublions que l'Esprit Saint agit dans les sacrements. Alors je dis bien parfois, mais et peut-être avec un peu d'humour, mais c'est vrai que parfois nous avons l'impression qu'il faut cocher des cases. J'ai fait ma confirmation, j'ai fait ma première communion. Bon, j'aime pas trop en fait les expressions j'ai fait qui donnent l'impression d'une case cochée ou d'un tampon reçu sur une crédentiale. Bon, c'est vrai que notre vie sur terre est un pèlerinage, mais c'est pas des cases à cocher. C'est bien plus que ça. C'est l'Esprit Saint qui vient agir dans mon cœur. L'Esprit Saint qui vient agir dans mon cœur pour me transformer, pour vraiment transformer ma vie. Et vous voyez, dans ma paroisse maintenant, nous vivons la confirmation sur le chemin de la première communion pour préparer l'enfant ou l'adulte, parce qu'il n'y a pas d'âge, hein, donc pour préparer celui qui demande la première communion, à la fois de l'extérieur, avec le catéchisme qu'on va lui donner, les enseignements, l'accompagnement, toute cette partie qui va rester très extérieure, et puis pour qu'il puisse être transformé de l'intérieur par le sacrement de la confession, d'abord, bien sûr, qui est pour nous un nouveau baptême, on le sait bien, qui nous replonge dans la grâce, dans la pureté, la sainteté de notre baptême. Donc ça, c'est un sacrement merveilleux. Et puis, par le sacrement de confirmation, qui fait que l'Esprit Saint emplit, comme le vent qui remplit la maison à la Pentecôte, vient remplir la personne et transformer la personne, préparer son cœur pour être donné au Christ.
Donc voilà, ça, c'est ce que vous proposez, mutuel. Et il y a beaucoup d'enfants qui, justement, font cette démarche-là dans votre diocèse et dans votre paroisse en particulier.
Alors, dans le diocèse, maintenant, il y a d'autres paroisses qui ont démarré ou qui vont démarrer dans cet ordre-là. Et dans ma paroisse, ça fait à peu près 3 ans que nous avons mis cela en place. Et là, nous sommes arrivés au stade où maintenant, d'une certaine manière, la question ne se pose plus parce que pour recevoir la communion, la confirmation est sur le chemin. Comme une étape indispensable. Donc voilà, la question se vit très naturellement.
Père Charles-Marie Rigaille, dans le diocèse de Lille aussi, il y a ces initiatives-là, cette démarche-là qui se pratique.
Alors pas du tout pour l'instant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette année, l'archevêque de Lille a demandé à ce que, par exemple, le sacrement de confirmation ne soit pas considéré comme une étape pour ceux qui sont adultes. Et donc, on avait pris l'habitude, justement, pour faire une forme de service après-vente du baptême, de faire le baptême une année et la confirmation l'année suivante. Et il a dit, mais en fait, non, s'ils sont prêts pour le baptême, ils sont prêts pour la confirmation, il n'y a pas de raison, ils sont adultes, il faut faire les deux en même temps. Alors, évidemment, on perd ce que le père François évoquait tout à l'heure, ce lien à l'évêque, puisque du coup, ben, c'est un prêtre qui baptise dans sa paroisse le soir de la veillée pascale. L'évêque ne pouvant pas être présent à tous, à tous les endroits à la fois. Cette dimension d'entrer dans l'église, de prendre sa place, d'avoir quelque chose que l'évêque donne lui-même en tant que pasteur propre de cette église, on le perd un petit peu, même s'il est toujours signifié par le Saint-Crème, qui lui est toujours consacré par l'évêque. Et donc c'est là où on peut essayer de remettre un peu en valeur cette place de cette huile, qui est bien quelque chose qui vient de l'église et qui a été consacré par l'évêque, qui est l'unique pasteur du diocèse. On a vraiment cette dimension-là, en tout cas, on y travaille, hein, c'est des choses qui bougent et qui se réfléchissent aussi dans les différents diocèses.
Marianne nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour Marianne.
Bonjour, merci. Voilà, j'habite la Bretagne.
Oui.
Et moi, je viens du Sud, je me suis mariée avec un Breton et j'étais protestante. Voilà. Et au départ, nous avons fait un mariage, enfin nous avons préparé un mariage œcuménique, voilà, dans le grand respect de nos différentes cultures et religieuses. Et tout allait bien. Et puis quand notre premier garçon est né, je n'ai pas beaucoup réfléchi. Et pour moi, c'était naturel qu'il soit catholique en Bretagne, voilà. Donc tout va bien. Et puis à la première réunion d'éveil à la foi, quand nous sommes retrouvés entre maman, une religieuse, une catéchiste, ouvrir la Bible tout ensemble, alors ça c'est quelque chose qui était très très important pour moi. J'ai entendu on n'est pas chrétien seul, j'ai commencé à aller à l'église, à la messe, tous les dimanches. Voilà.
Et sur la confirmation alors, Marianne?
Alors voilà, et de ce fait, il a été évident pour moi que j'avais un appel par l'Eucharistie, donc c'est très étonnant, mais cet appel à l'Eucharistie, puis après donc pour devenir catholique... Donc j'ai préparé ma confirmation.
Écoutez,
voilà. Et alors que j'avais vécu la confirmation protestante, et avec beaucoup de sérieux, hein, dans le sens engagement, hein, comme disait un père tout à l'heure. Et depuis, alors là maintenant, je suis à la retraite. Et voilà 3 ans qu'on m'a demandé cette mission de préparer des adultes à la confirmation, d'accompagner. Ça m'a beaucoup touchée puisque c'était mon parcours.
Oui.
J'étais donc confirmée à 45 ans.
La boucle est bouclée, comme on dit, Marianne. Et merci beaucoup vraiment d'avoir apporté ce témoignage. Je me permets de vous couper un peu la parole parce qu'on a d'autres auditrices qu'on entendra dans un instant. Père Charles-Marie Rigaille, qu'est-ce que ça vous évoque d'avoir entendu ce témoignage de Marianne, j'allais dire une ancienne protestante qui est devenue catholique, mais en tout cas, voilà, qui a refait tout son parcours également en devenant catholique.
Alors c'est un parcours que les adultes font, enfin souvent quand ils arrivent à la confirmation, ceux qui sont étudiants, ceux qui sont plus âgés, ils arrivent avec cette double dimension qu'elle a évoquée en fait. Hein. C'est vrai que les sacrements, je le redis très simplement, mais les sacrements, c'est la théologie de l'Église, pardon pour le latin, mais agissent ex opere operato, c'est-à-dire par le fait même d'être conféré. C'est-à-dire que dans un sacrement, c'est un cadeau, on l'a dit tout à l'heure, c'est un don de Dieu et il n'y a pas besoin d'avoir en soi des dispositions spécifiques. Dieu donne, quelle que soit la personne qu'on est. Et c'est pour ça qu'on peut le rappeler encore hein, à vos auditeurs, à nos auditeurs, enfin, en réalité, la confirmation, vous voyez, c'est un cadeau pour vous, n'hésitez pas, n'ayez surtout pas peur. Enfin voilà, c'est le principe, c'est le sacrement de ceux qui n'ont pas peur. Vous savez, c'est le cénacle, hein, ils ont peur, ils sont dans le cénacle, ils reçoivent l'Esprit Saint, les apôtres, et ils sortent. Donc justement, même si vous avez peur, c'est peut-être justement l'occasion de demander la confirmation. Et donc, ce sacrement, c'est un cadeau, quoi qu'il arrive. Après, on sait bien un cadeau, ça dépend aussi de l'âge auquel on le reçoit, ça dépend de la manière dont on le reçoit. Il est important de bien préparer la réception d'un cadeau. On sait que la façon dont on va le recevoir et dont on s'y prépare dit quelque chose. Aujourd'hui, ceux qui préparent la confirmation, on les appelle des confirmants. Il y a une petite nuance, là aussi j'entre dans des détails, mais c'est pas des confirmants avec un T. Ça sous-entendrait que c'est eux qui confirment. Ils confirment qu'ils ont la foi, qu'ils confirment qu'ils veulent suivre le Christ, qu'ils veulent recevoir l'Esprit Saint. C'est pas ça. C'est des confirmants avec un D. Alors c'est le D du gérondif latin, mais ça veut dire que c'est eux qui sont, c'est eux qui reçoivent une confirmation. C'est Dieu qui confirme leur baptême. Et donc d'ailleurs, quand ils auront reçu l'Esprit Saint, on dira ce sont des confirmés. On ne dira pas, ce sont ceux qui ont fait confirmation ou quoi que ce soit. Ils sont confirmés. Ils sont confirmés par qui ? Par Dieu. Et donc, il y a bien quelque chose qui est toujours un peu en tension entre on reçoit quelque chose, quel que soit l'âge, quel que soit l'esprit dans lequel on le reçoit toujours. Et aussi, en fait, on doit quand même être à peu près. C'est pour ça qu'on s'y prépare. C'est pour ça qu'on fait des parcours de préparation à la confirmation. C'est pour ça qu'on se prépare au sacrement et on essaye d'être le plus ajusté possible pour le recevoir pleinement. Et donc, on est toujours un peu en tension entre ça, ce qui explique la discussion qu'on a ce matin sur l'âge. Parce que, en fait, l'âge, ça va jouer beaucoup sur cette préparation et cette réception.
Père François de Dieu, la confirmation, un surcroît de grâce, c'est ce que vous dites dans votre livre. Vous faites la métaphore avec l'homme augmenté, vous parlez même du baptisé augmenté. Expliquez-nous.
En fait, par le don de l'Esprit Saint, nous sommes transformés. Vous voyez, comme les apôtres, le père Charles-Marie parlait à l'instant du Cénacle, et les apôtres qui parlent au don de l'Esprit-Saint, ben voilà, ont toute peur qui est chassée et qui se met en route, eh bien, c'est ce que l'Esprit-Saint vient faire pour nous. Il vient nous combler de ces sept dons. Vous savez, les sept dons de l'Esprit-Saint, je ne vais pas les reprendre, mais qui nous sont donnés pour notre vie chrétienne, pour que nous puissions vraiment vivre cette vie chrétienne avec ces dons-là. Alors, en sachant aussi, je le précise parce que j'y pensais en entendant le Père Rigail à l'instant, en sachant aussi que là, nous parlons de l'initiation chrétienne, c'est-à-dire le commencement de la vie chrétienne. Mais ça ne veut pas dire que notre vie chrétienne s'arrête quand nous avons fini ce commencement. En fait, donc baptisé, confirmé, on communie, et d'ailleurs quand on prend les sacrements dans cet ordre-là, l'initiation chrétienne se termine par un sacrement qu'on peut recevoir à nouveau et qu'on va pouvoir recevoir très régulièrement, et non pas par un sacrement non réitérable qu'on reçoit qu'une seule fois, qui est la confirmation. Donc on continue dans ce mouvement, et il va s'agir toute notre vie de continuer de nous mettre à la suite du Christ, de continuer d'accueillir l'Esprit Saint. Vous savez, dans les actes des apôtres, c'est magnifique, il y a la Pentecôte, mais en fait, il y a un nombre d'effusions de l'Esprit Saint qui est très important. Il y a de nouvelles effusions de l'Esprit Saint. Ça ne s'arrête pas à la première. La première est évidemment fondamentale, mais nous recevons encore l'Esprit Saint. Et bien, de la même manière, dans notre vie chrétienne, nous allons accompagner les fidèles et nous-mêmes aussi pour que nous nous ouvrions, toujours davantage à cette puissance de l'Esprit Saint pour que nous puissions, comme le dit Saint Paul dans la lettre aux Galates, nous laisser conduire par l'Esprit. Et il y a une catéchèse à continuer pour pouvoir nous laisser conduire par l'Esprit. Vous voyez, dans l'Évangile, Jésus dit « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. » Donc voilà, on est devenu disciple, on reçoit le baptême et les sacrements, et puis apprenez-leur à garder tous les commandements. Donc on a besoin de continuer à apprendre pour vivre cette vie chrétienne, des pèlerinages, des sessions, des veillées, toutes sortes de choses qui vont nous aider à nous fortifier dans la foi.
Delphine, cette confirmation à l'âge de 42 ans, on l'a compris, ça a fait mûrir votre foi. Vous avez le sentiment aussi d'être une baptisée augmentée, comme le dit l'abbé François de Dieu. Comment vous vivez les choses ?
Alors complètement, oui. Donc j'ai été boostée dans ma foi. Hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'invoque régulièrement l'Esprit Saint, dans les difficultés ou pour qu'il me donne sa force avant un moment que je redoute ou enfin voilà différents moments de la journée ou de la semaine. J'ai vraiment reçu tous ces dons. Alors je suis parfois plus dans la recherche de force, dans la recherche de paix, mais je les vis au quotidien et aussi par rapport à ce qu'évoquait le Père, se laisser conduire par l'Esprit Saint. Moi, j'ai gagné beaucoup en lâcher prise aussi. Parce que ces dons reçus, je suis plus dans la confiance par rapport au Christ qui m'a donné.
Petite coupure avec Delphine Schelfoot qu'on va retrouver dans un instant. Bah, ça tombe bien puisqu'on a Annie qui nous a appelé au 04 72 38 20 23. Bonjour Annie.
Bonjour.
Bonjour, bonjour, c'est à vous.
Eh bien voilà, moi j'ai été confirmée dans les Vosges en 1940 au mois d'avril, juste avant l'arrivée des Allemands. Dans notre petit village, le curé a demandé aux gens de préparer leurs enfants s'ils voulaient. On a été préparés pour la première communion et la confirmation. Et l'évêque à l'époque, c'était Monseigneur, ça y est, je sais plus le nom, ça n'a pas d'importance. Il est venu dans ce petit village et nous avons été communiés et confirmés juste avant l'arrivée des Allemands. Et ça nous a beaucoup aidé pour dans notre vie après. Mmh. Ensuite, quand je me suis mariée beaucoup plus tard, je suis venue en Saône-et-Loire. C'était plus pareil du tout. Mes enfants, les deux premiers, ont été confirmés après leur profession de foi à 12 ans normalement. Et les deux suivants, suite à des problèmes avec le père curé qu'on avait changé, hein, c'était un autre prêtre, et il y a eu beaucoup de problèmes. problème avec les paroissiens, dont moi avec mes enfants, parce que c'était les enfants qui étaient le problème à l'époque, on n'a pas eu ni de profession de foi, ni de confirmation à l'âge où ils auraient dû en avoir. Ils ont eu leur profession de foi simplement dans les pensionnats où ils étaient, notamment à Saint-Jean, à Dijon.
Ah bah écoutez, merci beaucoup Annie de nous avoir un peu rappelé vos souvenirs ce matin. Qu'est-ce que ça vous fait, Abbé François de Dieu, d'entendre ce témoignage? C'était les années 40 hein, quand même.
Je trouve ça très beau de voir ce désir du curé de confirmer, alors que les Allemands sont aux portes du village, de confirmer tout le monde. Vous voyez, quand quelqu'un est en danger de mort, tout prêtre peut le confirmer. Alors on peut se dire, mais à quoi ça sert? En fait, il a déjà été baptisé, la porte du ciel lui est ouverte, et la confirmation vient rendre quelque chose de plus parfait dans notre cœur, et nous permet, quand nous pouvons le recevoir, ben, voilà, de vivre, d'entrer dans la gloire de Dieu avec cette perfection supplémentaire. Et donc là, je trouve qu'il y a quelque chose de cela dans le côté où, voilà, on est dans une situation un peu inconnue, dangereuse, et on veut donner les cadeaux, on veut donner tout ce qui est possible pour ceux qui sont en mesure de le recevoir, pour pas qu'ils soient sans cette force, et je trouve ça magnifique.
En tout cas, est-ce qu'il y a des méthodes à changer dans ce chemin d'initiation chrétienne pour que la confirmation retrouve peut-être sa juste place, hein, comme vous le suggérez dans votre livre, Père François de Dieu, voilà, est-ce qu'il y a des méthodes à changer?
Ben, je dirais déjà que l'émission, par exemple, aujourd'hui, le fait de parler de la confirmation, d'encourager les gens, l'Esprit Saint est quand même un grand inconnu pour beaucoup de catholiques. Et en fait, pouvoir parler de l'Esprit Saint, parler de la nécessité de recevoir le sacrement de confirmation, c'est déjà, je crois, une très bonne chose. Et je crois que redécouvrir ce sacrement, voir quelle est sa place justement dans l'initiation chrétienne, et puis l'offrir largement, ne pas en faire un sacrement le nec plus ultra du catho engagé. Vous savez, comme le jeune, parfois on repousse, on traverse tout le champ de bataille, et une fois que le champ de bataille est passé, on va lui donner l'armure et l'armement. Et redécouvrir que le sacrement de confirmation, ben c'est justement cette armure, cet armement, si on reprend toute la tradition de l'Église, pour mener la vie chrétienne. Et donc en redécouvrant tout cela, eh bien, je pense que ça peut aider les uns et les autres à accueillir ce don de l'Esprit Saint, et surtout l'accueillir pour en vivre. En fait, c'est pas pour cocher une case, mais c'est vraiment pour en vivre au quotidien, pour se laisser conduire par l'Esprit.
Père Charles-Marie Rigail, la confirmation, ce n'est pas obtenir un titre, mais comment finalement lui redonner toute sa place? Est-ce que, selon vous aussi, il y a des méthodes à changer? Delphine l'a dit tout à l'heure, on ne lui a pas proposé plus que ça lorsqu'elle était adolescente. Est-ce qu'il y a des choses à changer, parce qu'il n'y a pas de règles non plus, fondamentalement?
Alors, on l'a vu, il n'y a pas de règle, parce que déjà, j'ai ça dans le témoignage qu'on vient d'entendre et qui était très beau, on redit que effectivement la confirmation, elle est une aide, elle est une force, et donc quand quelque chose de dangereux arrive, on confirme. Moi, ça m'est arrivé de donner les signes complémentaires du baptême à un enfant qui avait été baptisé, confirmé, parce qu'on avait eu peur pour sa vie et qu'il allait bien finalement, mais on l'avait confirmé tout de suite, et c'est très bien, il a été confirmé du coup lui. Bébé, à la mode orthodoxe, on lui a quand même pas donné la première communion, ce que font les orthodoxes, ils donnent très très tôt, à 40 jours, la première communion. Dans la manière de parler de la confirmation, effectivement, je pense qu'on gagnera, entre guillemets, démocratiser, à pas considérer que la confirmation, c'est le sacrement de ceux qui sont le haut du panier, comme le Père François le disait à l'instant. Non, non, la confirmation, c'est le sacrement des chrétiens. D'ailleurs, dans le mot même de chrétien, il y a cette allusion à Christ qui signifie « oint », qui a reçu l'onction. C'est l'onction de la confirmation de celui qui a reçu tous les dons du Saint-Esprit et qui doit vivre de sa vie chrétienne. Et donc, pour moi, tout catholique qui vit de sa foi se doit d'être confirmé, non pas comme une contrainte obligatoire, mais parce que c'est un don que Dieu veut lui faire. Et que justement, puisque Dieu veut lui faire ce cadeau, il faut aller le prendre, il faut aller le recevoir. charge à nous, alors, du coup, les pasteurs, ce petit message pour nous-mêmes, de faire que la confirmation ne soit pas le chemin de croix, ou en tout cas le parcours du combattant, parce qu'il faut être disponible tous les mardis soirs à 18h pendant 9 mois de l'année ou pendant 2 ans. Ça, c'est effectivement, parfois, il y a des gens qui passent à côté à cause des contingences matérielles. Et c'est là où nous, on doit peut-être faire attention à pouvoir proposer la confirmation, peut-être dans les différents parcours. On pourrait imaginer que quelqu'un qui fait un parcours alpha, bah à la fin, il aura déjà un peu préparé sa confirmation. Mmh. Quelqu'un qui fait tout un cycle de préparation au mariage et qui se rencontre 8 fois et qui parle de sa foi, bah peut-être qu'on pourrait le confirmer, en fait, à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'il faut forcément avoir fait le parcours prévu avec toutes les séances du cycle de préparation à la confirmation de gens qui l'ont demandé explicitement? Peut-être qu'on peut démocratiser ça en ouvrant ça plus facilement, plus simplement, en disant, mais voilà, vous voulez être adulte dans votre foi, vous en avez fait la démarche, eh bien, recevez ce don de Dieu, recevez l'Esprit Saint.
Delphine, vous en pensez quoi? Il faut plus de lieux de proposition, finalement, de ce sacrement aussi, comme le dit le père Charles-Marie Rigail?
Moi, j'ai souffert de ce manque de proposition, et je trouve effectivement qu'on a beaucoup de. Enfin, moi, je me suis retrouvée dans un parcours spécifique pour la confirmation, mais on venait tous d'horizons différents. Et je pense qu'il y a une maturité à un moment qui fait que, voilà, au sortir effectivement d'un parcours, on a beaucoup de parcours de proposition paroissiale. Je pense que c'est un sacrement qu'il faut démocratiser et proposer et faire sauter les jalons de disponibilité, de tout ça, parce que quand on a vécu un beau parcours, qui nous a fait grandir et qui nous donne cette envie, allons-y, quoi. Ne nous privons pas.
Abbé François de Dieu, vous voulez réagir?
Oui, je trouve ça très beau ce qui est dit, justement, parce que, vous savez, le pape François nous dit souvent qu'il ne faut pas mettre de barrières de péage. Et parfois, par nos parcours, nous mettons comme des barrières de péage. Moi, j'ai eu des très beaux moments en paroisse avec des parents qui ont été confirmés avec leurs enfants. Voilà, pas forcément à la confirmation diocésaine à tout prix, parce qu'il fallait qu'ils soient confirmés avec tous les adultes du diocèse qui allaient être confirmés, mais leurs enfants étaient confirmés dans la paroisse et l'évêque les a confirmés avec leurs enfants. Et donc sur l'accompagnement des personnes doit s'ajuster comme un gant à la main. Alors bien sûr que c'est pas simplement un accompagnement personnel, dans un sens même presque individuel, de complément coupé de la communauté, mais c'est en lien avec tout le monde, donc il peut y avoir des rencontres avec tous, mais l'accompagnement n'est pas le même pour quelqu'un qui est déjà impliqué dans l'Église, qui a déjà fait du catéchisme, et quelqu'un d'autre. On n'est pas obligé d'avoir des délais, ces 2 ans ou ces je sais pas combien, comme quelque chose de comme une barrière de péage. Et je crois que c'est important d'encourager les pasteurs à vivre vraiment cet accompagnement personnel.
Quand je vous entends tous les trois, finalement, plus qu'une question de débat autour de l'âge ou de l'ordre de ces sacrements, c'est le bon discernement qu'il faut avoir, Père Charles-Marie Rigail.
Oui, je pense que ça s'ajuste. On gagnera à se laisser porté par l'Esprit Saint, justement, sur ces questions-là, à laisser l'Esprit Saint parler au cœur et peut-être à faire peut-être un tout petit peu plus de sur-mesure, c'est-à-dire que les règles strictes, elles valaient quand tout le monde sortait du même moule et que, évidemment, dans un établissement catholique, on avançait tous au même rythme, etc. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Les gens ont des parcours très très différents et puis même au niveau de leur foi, même s'ils font les mêmes étapes, ils ont des parcours de foi très différents, et donc on gagnera beaucoup à s'ajuster, à s'adapter à chacune des personnes, sans rajouter effectivement pour chacun des parcours dans tous les sens, mais peut-être profiter de ce qui existe déjà pour parler de l'Esprit Saint et pour permettre aux gens de vivre de ce don de Dieu dont ils ont besoin.
Père François de Dieu, 7, 12, 15, 40. Il faut un bon discernement avant tout.
Effectivement, de voir un peu où la personne en est, où elle en est dans sa foi, et puis si elle a ce désir de se laisser transformer par le Seigneur, ben voilà, c'est ce désir, c'est ce cri vers le Seigneur que nous adressons. Seigneur, sauve-moi. Ben si la personne a ce cri vers le Seigneur, eh bien le Seigneur l'appelle et la met en route.
Delphine, le mot de la fin, Delphine Shelfood. Ah, vous êtes si vous êtes là, super.
Moi, je dirais, proposons-le, osons le proposer, voilà. Ouais, je suis là. Vous m'entendez?
Oui, on vous entend, allez-y, Delphine.
Je dirais proposons-le, osons le proposer parce que encore une fois, se priver de ce don, c'est terrible. Donc un cadeau, il faut le proposer. Et donc bon, bien sûr, ne pas le proposer à tout va, mais effectivement, quand on sent la personne prête.
Merci beaucoup Delphine Schelfoot pour votre témoignage. Vous avez été confirmée à 42 ans. Vous êtes venue nous raconter votre parcours. Merci également à Abbé François de Dieu. Vous êtes curé de la paroisse Saint-Urbain, Sainte-Marie de la Garenne-Colombes dans les Hauts-de-Seine. Vous êtes l'auteur du livre La confirmation à sa juste place aux éditions Artege. Père Charles-Marie Rigaille, un immense merci d'avoir été en duplex de Lille. Vous êtes curé et aumônier de l'université catholique. Merci à nos confrères de RCF Nord de France de vous avoir accueilli ce matin. Ça continue.
Et on salue les habitants d'Hauts-de-France. Oui, ça continue. Pauline, vous l'avez dit dans un instant. Toujours sur la confirmation, on va plus s'intéresser sur la préparation à la confirmation. Dites-nous un peu comment ça s'est passé pour vous. Et si jamais vous faites partie d'un service justement de préparation, venez nous raconter les coulisses. 04 72 38 20 23. À tout de suite.